la mondialisation géographique, c'est le type de géographie que produit la mondialisation. La mondialisation, ce processus géohistorique qui s'étale sur 5 siècles, qui voit la dilatation, l'expansion de l'espace-monde, régi d'abord par le développement du capitalisme, mais pas seulement, aussi par les impératifs des États coloniaux. Par exemple, l'Espagne et le Portugal vont organiser l'espace d'un continent entier, l'Amérique. C'est pas uniquement des entrepreneurs capitalistes, des planteurs, des éleveurs, etc. C'est aussi l'État espagnol, par exemple, qui va reproduire du Mexique jusqu'à l'Argentine ou au Chili actuel, va reproduire des villes qui ont le même type de plan d'urbanisme, plan damier, qui va semer tout ça de monastères, tout cet immense espace de monastères, de mines, de chemins, bien sûr, de routes, de ports fortifiés. C'est la destruction des populations locales. C'est la destruction d'une géographie. Pendant cette grande période historique qui dure 5 siècles, évidemment, l'espace-monde s'est dilaté pour aujourd'hui couvrir la totalité du globe. Et on est encore en phase de mondialisation. Je m'appelle Christophe Grenier, je suis géographe. Mon objectif, c'est de forger un cadre conceptuel général qui enjambe sciences naturelles et sciences sociales pour expliquer ce qu'est la Terre aujourd'hui et comment on en est arrivé là. Pour montrer que la diversité terrestre et la destruction de cette diversité terrestre nous concernent tous. Je travaille essentiellement sur 4 terrains de recherche, donc certains où j'ai travaillé pendant des années, comme les Galapagos, à 2 reprises, d'abord pour ma thèse, ensuite comme directeur du département de sciences sociales à la station de recherche Charles Darwin, donc aux Galapagos, à Madagascar aussi, où j'ai travaillé 2 ans, chercheur détaché de l'université, et puis 2 autres terrains où là, ça a été plus ponctuel, c'est à travers des missions de plusieurs semaines chacune, mais 2 missions à l'île de Pâques et 3 missions au Costa Rica, dans la péninsule d'Auxerre. Donc voilà, j'ai des terrains, ce qui me permet de comparer entre eux. Mais surtout, dès le début, dès ma thèse sur les Galapagos, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas de géographie sans histoire, c'est-à-dire que l'espace qu'on a sous les yeux, qu'on prétend analyser, on ne peut véritablement le comprendre qu'en comprenant l'histoire naturelle, mais surtout humaine, et qui nous y a menés, Donc, moi, je travaille sur différents aspects de l'espace mondial actuel, notamment dans ces 4 terrains, mais pour les comprendre aussi bien à l'échelle régionale de ces 4 terrains comme à l'échelle globale, je suis bien obligé de revenir dans le passé pour expliquer tel ou tel aspect des espaces en question. Le fait est que j'ai maintenant une profondeur temporelle sur ces terrains qui fait que je suis le témoin de ce qui s'y est passé au cours des 30 dernières années. Et si on replace ça dans une perspective historique plus longue, ce que je fais, donc je remonte à 1 siècle, pas beaucoup plus, 1 siècle, 2 siècles maximum, parce que ce sont des endroits justement qui sont fascinants pour étudier la mondialisation actuelle, dans la mesure où ils ont été intégrés il y a relativement peu de temps dans cette mondialisation. Grosso modo, pour faire court, pendant le 19e, voire même au 20e siècle. dans la mondialisation géographique, il existe deux phases. La première phase est la phase d'ouverture géographique, la deuxième étant celle de l'homogénéisation géographique. Alors, je commence par s'expliquer ce qu'est cette phase d'ouverture géographique. Cette notion exprime les profonds bouleversements spatiaux, écologiques et sociaux qui sont engendrés par la connexion d'une région jusqu'alors isolée, par sa connexion au système monde. Autrement dit, par son intégration à l'espace monde. C'est-à-dire que l'ouverture géographique, pour le dire d'une troisième façon, c'est une conséquence de la mondialisation géographique. Donc c'est l'idée selon laquelle une région isolée, quelle que soit la taille de cette région, que ce soit de l'île de Pâques ou le continent américain, est investie en quelque sorte et ouverte d'abord par des hommes, des colons, des militaires, des missionnaires, des entrepreneurs qui arrivent dans cette région jusqu'alors isolée, et ben les conséquences sont absolument gigantesques. J'allais dire d'emblée catastrophiques. La plupart du temps, elles sont catastrophiques. Pourquoi ? Parce que, et c'est là un parallèle intéressant avec ce qui se passe d'un point de vue naturel. C'est-à-dire que lorsque vous avez des écosystèmes isolés, notamment dans les îles océaniques, qui ont un filtre très important, qui est le filtre de l'océan, qui empêche toutes sortes d'espèces animales et végétales de s'installer librement dans l'écosystème en question, donc les espèces de l'écosystème isolé sont extrêmement vulnérables à l'arrivée d'espèces étrangères, halochtones. Et on a souvent d'ailleurs des endémismes, des espèces endémiques dans ces écosystèmes océaniques isolés. C'est un petit peu la même chose. Alors, on peut beaucoup parler, disons, des comparaisons entre sciences naturelles et sciences sociales, mais le fait est que, par exemple, d'un point de vue biologique, l'arrivée des Espagnols et des Portugais dans une moindre mesure en Amérique a eu comme conséquence ce qu'on appelle le choc microbien. Et le choc microbien, c'est quand même 90% d'une population à l'échelle continentale qui disparaît en un siècle. C'est énorme, c'est énorme. Ce sont des civilisations entières qui s'écroulent. La civilisation aztèque, la civilisation inca s'écroule. Il n'y a plus rien. Y compris, on rase leur ville, etc. On détruit directement, mais surtout encore par choc microbien, par choc des cultures, etc. On détruit en fait tout un tas de cultures locales. Donc les humains sont détruits, leur civilisation, pas partout, en tout cas les deux grandes civilisations sont détruites, leurs systèmes de croyances sont détruits à travers l'évangélisation, le travail forcé, on les chasse les survivants dans d'autres terres moins fertiles, bon, etc., etc. À côté de ça, on importe du bétail, on importe des plantes. On va en retirer, évidemment, d'Amérique, la tomate, le cacao, bon, peu importe. Mais toujours est-il qu'on importe surtout des animaux et des plantes domestiques qui vont s'étendre sur de très grandes étendues. Donc ça, c'est l'ouverture géographique à l'échelle de l'Amérique. À l'échelle de l'île de Pâques, comme dans beaucoup d'îles du Pacifique, ça s'est traduit là aussi par des chocs microbiens, j'y reviens pas. Donc à chaque fois, une ouverture géographique, c'est un traumatisme sur plusieurs plans, humain, écologique, et sociale, parce qu'évidemment, les sociétés sont complètement bouleversées. La deuxième phase, c'est ce que j'ai commencé à vous dire à propos de l'Amérique, c'est cette phase d'homogénéisation géographique. C'est-à-dire qu'une fois cette région jadis isolée intégrée à l'espace monde, dans beaucoup de cas, cette région, finalement, sert de support au développement, à l'étalement de géographie, c'est-à-dire d'empreintes uniformes. Le meilleur exemple, pendant la première période de mondialisation, c'est l'expansion phénoménale des plantations de canne à sucre. Donc ces plantations de canne à sucre, la canne à sucre domestiquée en Inde, qui est arrivée dans le monde perse, puis le monde arabe, au Moyen-Âge, on avait des petites plantations de canne à sucre en Méditerranée, essentiellement du sud. Donc les Espagnols connaissaient la canne à sucre. Quand les Espagnols et les Portugais commencent leur grande découverte, ils vont implanter des plantations de canne à sucre dans les îles, notamment ce qu'on appelle la Macaronésie, le Cap-Vert, Madère, Canaries, puis plus au sud, dans le golfe du Guinée. Ils vont créer le binôme plantation de canne à sucre esclavage africain et ils vont l'exporter en grand sur le littoral brésilien, puis ensuite aux Antilles et sur le littoral hispanique, on va dire au Mexique, littoraux tropicaux. Et donc on a le même type d'environnement, monoculture. Évidemment, pour faire la place aux plantations de canne à sucre, on détruit la forêt. la forêt tropicale de la côte brésilienne, la Mata Atlântica, les forêts des Antilles. Alors les Antilles, ça sera surtout les Hollandais, les Français, les Britanniques qui vont installer des plantations de cannes. Donc on a un processus d'homogénéisation géographique qui se met en place. Ces processus, on les retrouve dans la deuxième période de mondialisation, hein, le long 19e siècle, avec l'extension gigantesque des terres d'élevage bovins dans la pampa argentine, dans les grandes plaines américaines. On détruit ouverture géographique, on détruit des millions de bisons, on détruit des peuples indiens, on les parque, etc. Pareil, il y a un choc microbien, donc on fait place nette pour de nouvelles géographies. C'est-à-dire que, et s'introduit une dernière notion qui est caractéristique en fait de la mondialisation, c'est la notion de géocide, qui décrit tout simplement la destruction d'une géographie. Que ce soit les Indiens des grandes plaines américaines, mais que ce soit les Aztèques, que ce soit les Incas, que ce soit les tribus toupies du littoral brésilien au moment où arrivent les Portugais, tous ces gens-là avaient des géographies, ils avaient leur propre géographie. Ce que j'appelle, donc, faisait partie d'un monde qui cultivait la géodiversité ou la diversité géographique. Et en fait, ces géographies régionales sont effacées, littéralement, et ça j'ai bien étudié le cas à l'île de Pâques, hein, sont littéralement effacés pour faire de nouvelles géographies, les géographies des colons, des planteurs, des éleveurs, etc., etc. C'est un patrimoine, en fait, c'est un patrimoine géographique. Il y a des géographies qui ont cessé d'exister ou qui subsistent comme traces, mais qui pour autant permettaient de répondre à des défis locaux, à des types d'adaptations, par exemple les techniques de l'habitat. Refroidir un logement, il y a des techniques traditionnelles de la géographie du plateau iranien, où il fait 50 degrés l'été, ils construisent d'une certaine façon, traditionnellement, et que ça permet de refroidir l'intérieur des maisons. Bon, on pourrait citer tout un tas d'exemples. Or, ce qu'on voit à l'inverse, et ce que j'ai vu là cet été, je suis allé aussi à Vanuatu, et donc j'étais en avril à Madagascar, donc deux endroits où j'ai vécu respectivement il y a 20 ans et il y a 35 ans. Ce que j'ai pu voir dans ces deux endroits il y a 20 ans et 35 ans, c'est dans les villages une architecture, si on peut dire, des cases construites essentiellement en matériaux locaux. Aujourd'hui, dans les mêmes endroits, en fait, les cases en bambou, toit de pandanus, etc. Et donc, des ressemblances dans ces géodiversités, dans ces géographies différentes, il y a aussi des ressemblances. L'utilisation, par exemple, de matériaux de construction locaux. Eh bien, ces cases, on pourrait appeler traditionnelles, étaient remplacées par des maisons, des maisonnettes en parpaing à toit de tôle. Ou de l'avis même des gens du coin, on dirait, on crève de chaud. Alors, pourquoi vous construisez comme ça? Ah, mais parce que ça montre qu'on a réussi, quoi. C'est de l'argent, en fait. C'est la mondialisation. C'est de la mondialisation géographique, ça. Vous voyez, une homogénéisation, y compris dans l'architecture, de petits villages perdus au Vanuatu et aussi dans le sud-ouest de Madagascar. Un exemple d'uniformisation, d'homogénéisation géographique de notre époque, et que là j'ai pu voir de mes yeux vus, c'est les paysages du tourisme. Il n'y a rien qui ressemble davantage à une promenade de bord de mer en station balnéaire qu'une autre promenade de bord de mer en station balnéaire. Qu'on se trouve aux Galapagos, qu'on se trouve à Minorque, dans les Baléares, grosso modo c'est la même. Avec les mêmes restos, avec les mêmes éclairages, avec les mêmes aménagements soi-disant écolos, une station de ski ressemble à une autre station de ski. J'aime bien prendre l'avion, ou plus exactement, prendre des photos depuis l'avion. Quels que soient mes vols, j'essaie toujours d'être à côté d'un hublot, et parfois on a des super vues, y compris des vues géographiques, c'est-à-dire par exemple les banlieues résidentielles d'Atlanta, de Johannesburg, de Nantes, de Sydney. Bon, en fait, c'est les mêmes. C'est les mêmes maisons et voies, une rue qui desserve ces lotissements qui s'étalent à l'infini. Les fameux CBD, hein, les Central Business District, bah, en fait, qu'on soit à Sydney, à, je sais pas moi, à Rio ou à New York ou à Dubaï. Bon, en fait, c'est pareil, quoi. C'est les mêmes. Ça, c'est de l'uniformisation. Je préfère dire de l'homogénéisation géographique. Ce sont des paysages. Mais donc, en fait, ce que dit la géographie, n'importe qui peut le voir, quoi. Beaucoup plus qu'on me parle d'homogénéisation culturelle. Ouais, d'accord, mais bon, qu'est-ce qui te fait dire ça? Et comment tu... Non, vous voyagez, vous voyez l'homogénéisation géographique. Le béton, c'est un truc qu'on trouve partout dans le monde, de plus en plus, et qui provoque des dégâts environnementaux gigantesques. Mais quand on défriche la forêt amazonienne pour faire place à des plantations de soja OGM, c'est de l'ouverture géographique. On sait très bien que, sans même parler des populations indiennes, il y a peut-être des paysans métis qui vivent là, mais finalement, une entreprise va acheter ces hectares de forêt pour les défricher, bon, planter du soja transgénique à la place. C'est à la fois d'abord de l'ouverture et ensuite de l'homogénéisation. Du soja s'étend maintenant sur des milliers, des milliers, des milliers d'hectares dans ce qui était autrefois la forêt amazonienne, dans le sud de l'Amazonie actuelle. Moi, j'ai vu à Vanuatu, sur l'île d'Espirito Santo, une immense plantation d'un arbre tropical, une plantation qui appartient à des investisseurs chinois. Bon, ils ont détruit, pareil, des centaines d'hectares de forêt pour faire leur plantation de noli, hein, un arbre que je connaissais pas d'ailleurs, qu'ils exportent vers la Chine. C'est ouverture et homogénéisation.
C'était La mondialisation géographique, premier épisode, La destruction anthropique, avec le géographe Christophe Grenier. Réalisation Aurélien Frances, une production de Silence Podcast.